Soigner l'expérience client, c'est déjà et avant tout éviter les points de friction, ce que l'on appelle également les pain points. En contact à interviewer, lors du French Forum de l'expérience client, quelques docteurs spécialistes de ces sujets. Comme dans le film MASH, ils ont leur franc-parler.
Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see.
Bonjour Laurent Garnier.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de KPAE et vous êtes spécialiste de la modélisation des parcours clients.
Absolument.
Docteur Laurent Garnier, comment faites-vous pour modéliser ces mêmes parcours clients ?
Eh bien, comment on fait ? Eh bien, on part des verbatims des enquêtes de satisfaction. Grâce aux verbatims, en fait, on arrive à identifier absolument tout ce qu'on va appeler les touch points du parcours, c'est-à-dire toutes les étapes du parcours vécues par les clients, c'est-à-dire des choses dont les clients parlent. Ça, c'est la première chose qu'on sait faire, et on fait ça très bien, et on fait ça très précisément, parce qu'on est les seuls sur le marché à faire ça à la main. Oui, ce sont des humains qui font ça, donc ça permet d'avoir un travail beaucoup plus qualitatif. Et puis la deuxième chose qu'on sait faire, c'est qu'on sait repérer ce qu'on appelle les intensités de discours, c'est-à-dire les choses dont les clients nous parlent avec plus ou moins d'implication, plus ou moins d'intensité. Donc on repère, quand c'est positif, ce qui provoque beaucoup d'enchantement chez eux, ou quand c'est négatif, ce qui provoque beaucoup de frustration. Et finalement, cette mesure de l'intensité du discours en positif ou en négatif, elle nous permet d'affiner les choses, de ne pas être juste sur la base de l'occurrence pour sélectionner des choses, pour prioriser les choses, mais aussi de tenir compte de ces intensités de discours.
Globalement, que vous disent ces verbatims dans l'analyse fine qui en est faite ? Est-ce qu'on est plutôt sur un pourcentage équilibré entre satisfaction et insatisfaction ?
C'est très 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 variable, c'est-à-dire que d'abord rien que déjà dans la qualité de l'expérience au global, il y a des écarts monstrueux entre les meilleures expériences qu'on ait pu voir et les pires, il y a des écarts, mais c'est vertigineux, hein, etc. Donc on arrive à faire des benchmarks, à dire, ben voilà, de là à là, c'est vraiment, quand on a le score, c'est vraiment très 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 mauvais, de là à là, c'est très mauvais seulement, là c'est mauvais, puis jusqu'à excellent, bien sûr. Et puis après, sur chaque touchpoint du parcours, un parcours chez nous, ça fait entre 60 et je crois que le record est à 112 touchpoints. D'accord ? Donc 112 touchpoints, je crois que c'était pour La Poste. On avait fait récemment, ils avaient battu le record qu'on avait précédemment avec Air France. Air France, je crois que c'était 104 touchpoints et avec La Poste, on est passé à 112 touchpoints, de mémoire. Hein. Mais 112 touchpoints, donc sur chaque touchpoint, on a un curseur de l'équilibre entre le discours positif et négatif qui est parfois dans le rouge, parfois dans le bleu. Après, n'oublions pas que le discours négatif est souvent plus puissant que le discours positif, donc souvent, mécaniquement, je dirais, avec les verbatims, on a tendance à être un peu drivé vers le négatif, mais bon, après, on a des benchmarks qui tiennent compte de ça, bien sûr, et voilà.
Vous vous êtes accompagné, évidemment, vous parlez d'humains, il y a des linguistes ?
À la base, il y a une compétence linguistique, parce qu'on est trois associés chez KPM, dont une linguiste, qui était la linguiste dont on a pris finalement toute la compétence, qu'on a remis dans un contexte d'expérience client, parce que linguiste, elle était surtout une linguiste. Donc on a pris cette compétence, on l'a portée dans ce domaine-là.
Qu'est-ce que ça apporte finalement à l'analyse de ces verbatims ? Et qu'est-ce qui fait aussi que vous avez besoin d'être dans cet outillage accompagné ?
Les compétences linguistiques, elles sont clés parce que, en fait, je prends l'exemple très concret d'un client auquel on demande une note de satisfaction. Je prends le cas d'un client qui est ravi, il donne 10 sur 10. Puis quand on lui demande pourquoi il donne 10 sur 10, ce qui va générer le verbatim, eh ben, il dit, je vous donne 10 sur 10 parce que raison 1, raison 2, raison 3. Un client qui a 3 raisons d'être très satisfait et de mettre 10 sur 10. Notre point de départ, et ça fait très très longtemps qu'on a compris ça, c'est que, à l'évidence, les 3 raisons qu'il évoque ne sont pas sur un même plan dans sa tête. Ce que je veux dire, c'est qu'il donne 3 raisons pour justifier un 10 sur 10. On pourrait être tenté de se dire que les 3 raisons ont le même poids, mais c'est une véritable hérésie, parce qu'en fait, il y a forcément une des 3 raisons qui est vraiment porteuse du 10 sur 10, qui porte l'effet waouh, et les 2 autres qui sont certainement des raisons plus périphériques dans sa tête. Et bien nous, c'est ça qu'on est capable de faire, et c'est grâce à la linguistique qu'on est capable de comprendre ça. On est capable de comprendre que, par exemple, dans ce verbatim, c'est la raison 2 qui est vraiment la vraie raison du 10 sur 10. En fait, c'est là où la linguistique et la syntaxe qui viennent se greffer, c'est-à-dire qu'on est capable de voir que la façon dont la phrase a été faite, construite, la syntaxe a été utilisée autour de la raison 2, démontre des niveaux d'implication chez cet individu autour de la raison 2 qui sont très supérieurs au niveau d'implication qu'il a pour exprimer les raisons 1 et 3. Donc c'est là où la linguistique est clé, parce que la linguistique nous permet de comprendre où sont les intensités de discours. Voilà, c'est ça que ça nous permet de faire. quand vous êtes en train d'interviewer quelqu'un comme vous faites, là, alors on voit pas la vidéo, mais vous voyez mes éléments non-verbales, de comportement, de corporel et tout ça, vous voyez des sourires, des expressions, etc. Quand vous êtes face à du texte, vous n'avez pas ça. Donc justement, c'est là où la linguistique est clé, parce que c'est grâce à la linguistique qu'on arrive à reconstruire tout le processus de pensée. Tout notre travail est de comprendre quelles intentions les choses ont été dites. On travaille sur deux niveaux, il y a ce qui est dit et il y a avec quelles intentions les choses ont été dites. Et c'est ça que la linguistique nous permet, c'est de comprendre les raisons qui fondent les idées. Voilà.
Du coup, vous êtes vous-même, chez KPAM, en capacité de modéliser ces parcours clients.
Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir que, effectivement, une fois qu'on a identifié très précisément tous les touchpoints du parcours, une fois qu'on a justement ces éléments de quantification et les éléments d'intensité de discours, finalement, tout est là pour qu'on puisse modéliser très facilement. Donc du coup, on produit des modélisations qui sont effectivement très détaillées, très quantifiées, mais aussi qui permettent d'avoir cette priorisation plus fine et ne pas juste se baser sur l'occurrence pour se prioriser, comme je vous le disais. On sort de l'occurrence, bien sûr, qu'un touchpoint qui est commenté par un client sur deux a plus de poids qu'un client qui est commenté 1% du temps, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. On va aussi prendre en compte les éléments d'intensité de discours, ce qui va venir forcément mixer avec l'occurrence, rendre les choses plus fines, plus précises et plus opérationnelles derrière.
Vous êtes les seuls, vous le disiez, hein, à avoir développé cet outil diagnostique précis. Qui sont vos clients ?
Pour une petite entreprise, parce que vous voyez, on est 16 depuis hier. On a de la chance de travailler avec des entreprises comme... on travaille avec les trois quarts du CAC 40, on travaille avec des AXA, des Engie, des SNCF, des Air France, des grandes boîtes comme ça. Et on travaille aussi à l'international. On travaille par exemple avec Nespresso dans 10 pays dans le monde. On travaille pour Dyson en ce moment au UK, aux US et au Japon, par exemple. Donc des choses extraordinaires pour une petite entreprise comme nous. Donc, on travaille avec des grandes boîtes et en plus on travaille, je trouve, aussi avec pas mal de champions d'expérience clients, c'est-à-dire des boîtes qui sont très en avance sur ce sujet-là, des boîtes comme Naïf, comme Leroy Merlin, comme je ne veux pas faire d'impair et pas tous les citer, mais il y en a plein d'autres qui sont très forts, des entreprises qui trustent les podiums de la relation client, et c'est une chance folle pour nous de travailler avec des gens aussi avancés dans ces sujets-là, parce qu'on les aide, mais on voit aussi la façon dont ils réagissent, la façon dont ils travaillent, la façon dont ils. Les méthodes de travail qu'ils peuvent avoir, et c'est forcément passionnant.
Anticipation dans ces modélisations, parcours client, quels seront les enjeux en fait à venir là ? Sur quoi vous allez travailler après pour améliorer ?
Je dirais que la modélisation, elle est là.
Elle est effective.
Elle est effective, on travaille dessus, ça fait 7 ans qu'on a mis ça en place. Je trouve que la grande étape qu'on est en train de franchir, alors là, c'est une étape qu'on a déjà mis en place depuis 3 ans maintenant, c'est de mettre en miroir l'expérience client et l'expérience des collaborateurs quand ils sont en contact des clients. Et donc ça permet du coup de modéliser ce qu'on appelle la symétrie des attentions et de mettre en regard, nous on va dire en miroir, l'expérience client et l'expérience collaborateur, et d'avoir des véritables analyses miroirs qui tiennent compte des deux points de vue, ce qui est forcément plus riche, qui va forcément plus loin. Et on s'aperçoit que justement les champions dont je vous parlais de l'expérience client sont des gens qui intègrent maintenant systématiquement le point de vue des collaborateurs. Un, parce que ça motive les collaborateurs, parce qu'ils sont engagés dans les processus. Et deux, parce que tenir compte de leur son de cloche, c'est au moins aussi important que tenir compte du son de cloche du client. Donc avoir les deux sons de cloche, celui du client et celui du collaborateur, c'est une richesse formidable qui permet de piloter d'autant plus vite et d'autant mieux les plans d'action, d'autant plus qu'on a embarqué les collaborateurs dans le processus.
Docteur Laurent Garnier, vous qui êtes expert donc de ces modélisations parcours client, qu'est-ce qui dans votre parcours finalement vous a conduit à vous spécialiser dans un domaine très précis, très particulier ?
Cette rencontre avec cette linguiste, tout simplement. C'est-à-dire que moi je suis un publicitaire, j'ai fait 15 ans d'agence de publicité avant, j'ai fait la moitié de ma vie en France et l'autre moitié en Asie, de ma carrière professionnelle. Et puis je suis rentré, j'ai fait 3 ans dans une grande agence de pub qui s'appelait CLMBBDO à gérer le budget de Pepsi dans le monde entier, ce qui était fantastique, mais ce qui a été à la fois fantastique et une horreur à gérer, bref. Et j'avais vraiment l'aspiration de créer ma boîte, et puis j'ai eu cette rencontre avec cette linguiste que j'ai trouvé géniale, parce qu'elle m'a parlé d'intensité de discours, elle m'a parlé de trucs, etc. Et je me suis dit qu'il y avait certainement moyen de prendre ses compétences et de les mettre dans une sphère dans laquelle elle n'était pas. C'était vraiment, elle était dans une sphère très universitaire, et de mettre ça dans une sphère, la sphère du marketing au départ. En fait, au début, on était là, on voulait analyser les lettres de réclamation, c'est-à-dire que on pensait avec mes associés qu'avec Internet, il y aurait de plus en plus de réclamations, etc. Donc on se lance en fait et on analyse la réclamation à l'époque de GDF, à l'époque de Canal+, etc. Tous les mois, on analyse les 10 000 lettres de réclamation qu'ils reçoivent, en se disant qu'en analysant ça, on allait les faire progresser, logique. ça s'est fait comme ça. Et puis très vite, il y a un de nos clients qui nous a dit, mais vous pouvez pas analyser les verbatims du monde enquête de satisfaction. Et c'est comme ça qu'on a basculé de la réclamation vers l'enquête de satisfaction, même si ça nous arrive encore d'analyser de la réclamation, mais moins souvent qu'on ne le faisait avant. Voilà. Mais voilà l'histoire. Tout bonnement, c'est une rencontre. Le fait de deviner que certainement les clients allaient s'exprimer de plus en plus avec Internet, et puis les réseaux sociaux n'étaient pas encore là, mais on pressentait que avec Internet, l'expression des clients serait favorisée et que forcément il y aurait de plus en plus de verbatims et que cette matière non structurée, c'est-à-dire les verbatims, deviendrait de plus en plus importante, ce qui est le cas parce qu'aujourd'hui je crois que c'est 85% de l'information disponible sur les consommateurs, c'est de l'information non structurée. Donc voilà. Donc le pari était bon, mais s'il n'y a pas la rencontre à la base, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà.
Est-ce que vous avez peut-être vu MASH? MASH?
Oui, le film, oui. J'ai vu MASH, le film, oui. Ça fait un moment que je n'ai pas vu. Hein. J'avais vu le film et la série, parce qu'il y avait la série. Hein.
Donc le film, pour la petite histoire, a été primé à Cannes en 1970. Oui. Et donc du coup, il met en lumière voilà, une équipe de médecins qui intervient sur le terrain de la guerre de Corée. Ils ont des méthodes out of the box.
Oui.
Qu'est-ce qui, vous, dans votre domaine, fait qu'à un moment donné, c'est important de sortir justement du cadre?
Je pense pas qu'on sorte du cadre, mais vous n'imaginez pas le choc que sont nos réunions souvent pour les clients. C'est-à-dire que c'est parfois des uppercuts, c'est parfois des réunions. J'ai vu quelques clients pleurer pendant des restitutions, donc il y a des chocs émotionnels. En fait, on les rapproche tellement de leurs clients, c'est juste inimaginable. On les rapproche tellement de leurs clients et ils ont cette parole brute des clients, parce que les verbatims, c'est une parole brute des clients, etc. Alors, il y a beaucoup de prises de conscience qui s'opèrent pendant ces réunions. J'ai un client récemment qui m'a dit « ça fait du mal, mais ça fait du bien ». Je comprends très bien ce qu'il veut dire, je comprends très bien le « ça fait du mal » parce qu'on ne triche pas, je veux dire, les constats sont les constats et on les pose comme ça, etc. Après, tout notre travail, c'est de faire comprendre aux clients qu'on est là avec eux. Je veux dire, même si le constat est dur, on est là avec eux. Il n'y a pas, bien sûr, aucun jugement, et que même si c'est un diagnostic qu'on pose, mais que surtout, on est là pour les aider, pour... commencer à comprendre par où est-ce qu'il faut attaquer les différents sujets, leur proposer des plans d'action, etc., etc. Enfin, donc, on est très aidant là-dessus et très accompagnant. Mais c'est vrai que ce sont des réunions qui sont parfois étonnantes. Et quand on a en plus parfois le son de cloche des collaborateurs, ça peut être aussi parfois perturbant pour eux. Mais ça les réveille, ça les met en action, ça leur donne envie d'y aller, ça, etc., etc. Ça les énergise parfois. Enfin, voilà, c'est aussi ça le truc. Donc, ça peut être un peu hors cadre sous cet angle-là, je dirais.
Merci, docteur Laurent Garnier.
Merci. Non, je suis très, très flatté d'être docteur. Je crois que c'est la seule fois dans ma vie où je serai jamais docteur. Donc, j'en profite.
Merci. Morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see. Suicide is painful.